VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Nous sommes le vendredi 13 septembre 2019. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. En direct de Washington, je suis Irénée Hermanon-Bon en compagnie de
Michel Joseph.
Nous avons le plaisir de vous présenter cette édition dont voici les titres.
Crise au Cameroun, la France souhaite un dialogue national inclusif de large concertation.
Arrestation en Algérie de Karim Tabou, figure de proue du mouvement de contestation. Nous en parlerons dans ce journal.
Incertitude autour de la date et du lieu d'enterrement de la dépouille de Robert Mugabe au Zimbabwe. Sa famille et le gouvernement ont du mal à s'accorder.
Troisième débat des candidats à l'investiture du Parti démocrate pour la présidentielle de 2020 aux États-Unis. Le favori Joe Biden a opté pour l'offensive. Jean-Roger Billon nous fera le point dans un instant.
En Israël, les Arabes représentent 20% de la population et pourraient jouer un rôle clé dans la future coalition gouvernementale. Nous en saurons davantage dans notre page magazine.
Ne manquez pas la Minute Éco, l'actualité économique en Afrique et le sport, respectivement, avec Nanit Talani et Yacouba Ouédraogo, mais avant tout, le journal.
Crise au Cameroun, la France souhaite que le dialogue national proposé par le président Paul Biya permette une large concertation respectant les différentes sensibilités politiques. Ce dialogue vise à mettre fin aux conflits meurtriers dans les deux régions anglophones qui agitent le Cameroun depuis près de 3 ans. Éric Manirakiza.
La porte-parole du ministère français des Affaires étrangères a salué l'annonce du président Paul Biya, souhaitant que ce dialogue ouvre la voie à une résolution politique de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Tout en réitérant sa condamnation du recours à toute forme de violence, Paris souligne son attachement au dialogue et à la libre expression des différentes sensibilités politiques à travers une large concertation entre Camerounais. La secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, encourage toutes les parties prenantes camerounaises, y compris la diaspora, à s'impliquer de manière constructive dans ce dialogue. L'annonce de Paul Biya est intervenue 3 semaines après la condamnation à la prison à vie d'un des principaux chefs séparatistes, Julius Ayuk Tabe, qui a qualifié hier de non-événement le dialogue voulu par Yaoundé. Il estime que c'est une tentative maladroite d'éviter des sanctions de l'ONU. Pour lui, le président Biya n'a pas défini les modalités juridiques qui permettrait le retour au Cameroun des réfugiés ou demandeurs d'asile qui ont fui le pays en raison des persécutions du régime de Yaoundé.
Le leader séparatiste anglophone Julius Ayuk Tabe, écroué à Yaoundé, a qualifié de non-événement le récent discours du président camerounais Paul Biya sur la convocation fin septembre d'un grand dialogue national pour résoudre la crise anglophone, comme le disait Eric Manirakiza.
Monsieur Ayuk Tabe, 54 ans, qui s'était auto-proclamé en 2017 président de l'Amba Zoni, état que les séparatistes de la minorité anglophone veulent fonder, avait été condamné fin août à la perpétuité avec 9 de ses partisans par un tribunal militaire de Yaoundé.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé hier à l'unanimité un premier allègement de l'embargo sur les armes décrété en 2013 pour la Centrafrique, une demande de longue date des autorités de Bangui pour mieux combattre les groupes armés.
Rédigée par la France, la résolution adoptée par les 15 autorise la fourniture d'armes de calibre 14,5 mm ou moins aux forces de sécurité centrafricaines avec une notification préalable d'au moins 20 jours à l'ONU. Elle doit informer sur les armes fournies, les moyens utilisés pour les acheminer ou la précision de leur destination finale. En aucun cas, elles ne pourront être revendues ou transférées à des tiers, précise le texte.
En Algérie, l'opposant Karim Tabou, figure du mouvement de contestation, a été placé hier en détention provisoire. Selon ses avocats, il est inculpé d'atteinte au moral de l'armée. Le point avec Eki Abadou.
Karim Tabou, 46 ans, a été arrêté mercredi à Alger devant son domicile selon son parti l'Union démocratique et sociale. Il a été inculpé d'atteinte au moral de l'armée. Depuis le début du mouvement de contestation, le 22 février, il a été de toutes les manifs depuis 7 mois. D'abord membre de Front des Forces Socialistes, le plus ancien parti d'opposition, il a fondé en novembre 2012 l'Union Démocratique et Sociale, ou UDS, un parti non autorisé en Algérie. Le Comité National pour la Libération des Détenus a qualifié cette arrestation de kidnapping, semblable à celui du commandant Lagdar Bourega, un célèbre vétéran de la guerre d'indépendance incarcéré depuis le 30 juin pour atteinte au moral de l'armée. Cet opposant de 86 ans avait lui aussi critiqué le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée, devenu de fait l'homme fort du pays depuis la démission de M. Bouteflika. Le général Salah refuse toute autre solution de sortie de crise qu'une élection présidentielle dont la date n'est pas fixée.
Robert Mugabe sera-t-il enterré dans son village ou à Harare avec les héros du pays? Les tractations entre sa famille et le gouvernement zimbabwéen autour de l'enterrement de l'ex-président ont viré à la confusion hier. Les précisions de Jacques Aristide.
Le rapatriement de sa dépouille a donné le coup d'envoi hier à une série d'hommages qui doivent culminer ce samedi lors de funérailles nationales dans le grand stade de la capitale devant le gratin des chefs d'État africains. L'incertitude continue toutefois de régner sur le lieu et la date de l'inhumation de Robert Mugabe qui font depuis plusieurs jours l'objet d'un vif débat entre ses proches et les autorités. Ces tensions ont éclaté hier au grand jour lorsqu'un porte-parole de la famille a annoncé que l'ex-président reposerait dans son village contre la volonté du régime qui souhaite l'inhumer au champ des héros près de la capitale, précisément bâti pour accueillir les gloires de la guerre de libération. La même famille a rappelé dans un communiqué que cette décision était conforme aux souhaits de feu Robert Gabriel Mugabe. Quant au président Emmerson Mnangagwa, il a tenté d'arrondir les angles. Nous avons dit qu'il serait enterré dimanche. Comment, ça reste à décider, mais la famille aura le dernier mot. C'est ce qu'il a déclaré après avoir salué la dépouille de son prédécesseur hier.
Après le Nigeria, de nouveaux pays ont décidé de rapatrier certains de leurs ressortissants de l'Afrique du Sud. Des bus ont été mis en place pour permettre à plus de 200 personnes originaires du Zimbabwe et du Mozambique de rentrer volontairement dans leur pays. C'était en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrants. Après les violences de la semaine dernière qui ont fait 12 morts en majorité des nationaux, ces ressortissants étrangers ont perdu leur toit ou fui leur quartier.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le favori des primaires démocrates, Joe Biden, a opté pour l'offensive hier lors du troisième débat des prétendants à la Maison-Blanche. Il n'a pas ménagé ses principaux rivaux, les sénateurs Elizabeth Warren et Bernie Sanders, y compris les plus petits candidats. Compte rendu de Jean-Roger Bion.
Joe Biden, 76 ans, s'est montré incisif dans ce débat marathon de 3 heures. Il a défendu ses positions centristes face aux deux candidats plus à gauche, Elizabeth Warren et Bernie Sanders. L'ancien vice-président de Barack Obama a également revendiqué à plusieurs reprises ses liens avec le premier président noir des États-Unis, encore très populaire dans l'électorat démocrate. Les questions liées aux armes à feu étaient au centre des discussions. L'ex-élu du Texas à la Chambre des représentants, Beto O'Rourke, a plaidé pour la confiscation des fusils d'assaut. Pour les petits candidats, ce débat marquait l'une des dernières occasions de grimper dans les sondages et de s'attirer des financements indispensables pour poursuivre la campagne. 5 mois avant les premiers votes dans l'Iowa, ce troisième débat marque le vrai coup d'envoi de la rentrée politique aux États-Unis et l'accélération de cette longue campagne. 20 candidats sont toujours en lice dans la galaxie des démocrates.
L'administration Trump veut des progrès substantiels dans les prochaines négociations commerciales avec la Chine, a déclaré hier le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin au lendemain de l'annonce à Pékin et Washington d'une pause dans la guerre des tarifs douaniers. Il a en outre souligné que Donald Trump était disposé à retirer ou à augmenter les tarifs douaniers sur les marchandises en provenance du géant asiatique selon l'issue des discussions. Le président américain a pour sa part part, laissait entendre qu'il n'excluait pas de signer un accord provisoire avec la Chine.
Selon l'agence Bloomberg, son administration aurait envisagé de proposer un accord provisoire à la Chine pour reporter, voire annuler certaines des taxes douanières que Pékin impose aux États-Unis. Pékin a annoncé plus tôt étudier la possibilité d'acheter davantage de produits agricoles américains chers à Donald Trump et qui sont actuellement durement affectés par les représailles chinoises.
10 jours après le passage dévastateur de l'ouragan Dorian, quelques 1300 personnes ne sont pas encore localisées aux Bahamas, où une nouvelle tempête menace de s'abattre ce vendredi.
Oui, le Centre national des ouragans américains NHC a indiqué qu'un nouvel avis de tempête tropicale pourrait être publié pour le centre et le nord-ouest des Bahamas et la Floride et que des vents violents et de fortes pluies allaient s'abattre vendredi et samedi sur les îles touchées par Dorian. La dépression susceptible de se transformer en tempête se trouvait ce jour à environ 380 km au sud-est des îles Abaco, avec 80% de chances de se transformer en tempête dans les 48 heures suivantes, a indiqué le NHC.
Le premier ministre canadien Justin Trudeau a affirmé hier que son gouvernement imposerait une taxe pour contrer la spéculation immobilière étrangère dans le pays s'il était réélu aux législatives du 21 octobre. Nous allons instaurer une modeste taxe annuelle de 1% sur les logements appartenant à des étrangers qui ne résident pas au Canada, a déclaré le chef du Parti libéral lors d'un déplacement en Colombie-Britannique au deuxième jour de la campagne électorale. Passons à présent à la Minute Éco avec Nanit Talani.
Sao Tomé et Principe doit augmenter sa production nationale afin de réduire ses importations. La FAO finance un projet agricole dans le district de Mesochi pour environ 234 000 $. Le pays dispose d'un sol et d'un climat favorable pour la production de fruits, de légumes, de tubercules et de bétail afin de remplacer les importations massives de certains produits. L'économie de Sao Tomé est peu diversifiée et l'agriculture représente environ 20% au PIB et touche près de 60% de la population active. Le plan pour l'économie bleue du Cap-Vert sera présenté au gouvernement d'ici à novembre. Après l'approbation du plan, la construction d'un port, par exemple, impliquerait une étude des moyens de minimiser l'impact environnemental, selon InfoPress. L'économie bleue implique que les investissements touristiques prennent en compte non seulement la conservation des océans, mais également celle de l'environnement et des zones côtières du Cap-Vert.
On retrouve la page sport avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Eman, bonjour à tous.
Le Camerounais Benjamin Moukandjo fait son retour en France.
Oui, libre de tout contrat, après un passage en Chine, l'ancien capitaine de l'équipe du Cameroun s'est engagé en faveur de Lens en Ligue 1. Après avoir laissé filer deux éléments offensifs en toute fin de mercato, le RC Lens a officialisé la venue de l'international camerounais de 30 ans, qui sort de deux saisons en Chine. En 2017, Benjamin Moukandjo avait rejoint Jiangsu Suning et avait été prêté la saison dernière au Beijing Rennais. Les Sang et Or n'ont pas dévoilé la durée du bail du natif de Douala, qui va évoluer dans son 8e club en France. Il est entre autres passé par Rennes, Monaco, Reims, Nancy ou encore Lorient.
Le Malien Bakary Sakho rebondit à Chypre.
L'aigle malien de 31 ans s'est engagé pour deux saisons en faveur de Paphos FC, un club chypriote. L'ailier international malien était au chômage depuis la fin de son contrat avec Crystal Palace. Passé par Saint-Etienne de 2009 à 2012, il va connaître le 6e club de sa carrière. En Angleterre, la saison dernière, il n'a disputé que 5 matchs de Premier League après avoir passé 3 mois à West Bromwich Albion en D2.
Le Paraguayen Juan Angel Naput, suspendu à vie.
L'ancien président de la Fédération paraguayenne a été suspendu à vie par la FIFA. En août 2018, Juan Angel Naput, également ex-président de la Confédération de football d'Amérique du Sud, la CONMEBOL, a été condamné à une peine de 9 ans de prison, la plus lourde rendue par la justice américaine contre un baron du football sud-américain dans l'affaire du FIFA Gate. Monsieur Naput, 61 ans, a aussi été condamné à une amende d'1 million de dollars et a restitué les 3,3 millions de dollars de pots de vin perçus.
En basket, les demi-finales du Mondial se jouent ce matin.
L'Espagne et l'Australie vont se livrer un duel incertain où l'élimination des États-Unis a aiguisé la soif de l'or. Les Espagnols connaissent cette sensation pour avoir remporté le titre en 2006 face à la Grèce. De cette époque, il ne reste que deux joueurs, Rudy Fernandez et Marc Gasol, champion de la NBA cette saison avec Toronto et leader de l'équipe en l'absence de son frère Pau. Dans la deuxième affiche, la France essaiera de confirmer son exploit de mercredi contre les États-Unis 89-79 face à l'Argentine, invitée surprise des demi-finales. Les Français, troisième en 2014, partent favoris avec leurs quatre joueurs de la NBA, Ivan Fournier, Nicolas Batum, Frank Ntilikina et l'impressionnant Rudy Gobert, 2m17, infranchissable près du cercle.
De nouveau avec vous, Irénée Armanongo. Le monde aujourd'hui se poursuit sur VOA Afrique. Place à présent au dossier du jour. Une catastrophe ferroviaire a fait hier dans le sud-est de la République démocratique du Congo entre 10 et 50 morts selon les premiers bilans. Un train de marchandises a déraillé dans une zone reculée de la province de Tanganyika entre Kindu et Kalemie. Il transportait aussi des passagers clandestins qui n'ont pas d'autres moyens pour couvrir de longues distances. Les recherches se poursuivent. Eddie Isango a joué à Kinshasa. Le ministre des Affaires humanitaires, Steve Mbikaki, pour en savoir davantage, on les écoute.
Ce qui est vrai est que, il est arrivé à 3h du matin, il y a eu mort d'homme, il y a des blessés. Alors j'ai pris plus contrôle avec les chiffres en attendant que j'ai pu s'harmoniser et puis qu'on vérifie sous les wagons pour savoir s'il y a encore des corps.
Certains médias de Kinshasa ont avancé une cinquantaine de morts. Est-ce que ça avoisinerait ou c'est plus que cela?
Non, c'est l'information que j'ai reçue dans mes services, mais d'autres services dont les informations ne concordent pas avec ça. Alors je dois recouvrir les documents avant de pouvoir donner une position définitive.
Et qu'est-ce qui est fait dans ces cas-là pour les victimes?
Déjà, au niveau de la province, le gouverneur s'occupe des victimes. On va voir s'il a besoin de l'appui, d'autres appuis au niveau central ou pas.
Mais en fait, c'est pas la première fois que ce genre d'accident se fasse.
Mais dans le monde entier, il y a ce genre d'accident. Ce n'est pas seulement chez nous.
Dans le même temps, le gouverneur de la province de Tanganyika, Zoé Kabila, frère de l'ancien président Joseph Kabila, évoque un bilan provisoire de 10 morts, 30 blessés et de 3 wagons couchés.
VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
C'est la rentrée culturelle et artistique nationale au Cameroun. Des artistes du cinéma, du théâtre, des arts visuels et de la musique sont réunis à Yaoundé pour un grand festival culturel. Une exposition géante se tient au musée national à cet effet. Quels sont les impacts qui sont mis en exergue lors de cette quatrième rentrée culturelle nationale? Réponse avec notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jules Ntap.
Derrière les instruments qui distillent cette sonorité, 9 membres de l'association danse culturelle Mehep Bamiliké du Centre. Ce groupe perpétue un rythme traditionnel ancestral de la région de l'Ouest et met en vitrine un balafon fabriqué à l'aide de 7 petits morceaux de bois, objet de toutes les curiosités. Victor Temgwa est le président de cette association de danse.
Avant, ça sortait que lors des grandes funérailles, des cérémonies des grandes chefferies, lorsqu'un notable décède, lorsqu'il y a une cérémonie liée à la chefferie supérieure. Mais aujourd'hui, nous avons trouvé que bon, il faut que ça sorte pour les mariages, les baptêmes, ainsi de suite, les cérémonies comme celle-ci.
Ouais, c'est carrément comme ça.
Donc il faut leur donner le pas de sortir. Voilà.
Haïssi, le duc, un artiste bien connu au Cameroun, supervise une séance de répétition de ses danseurs.
Ils sont en train de danser le kalangou du nord Cameroun. Ce sont les Béti, les Bamileke, les Bassar. Et quand on se retrouve comme ça, nous devenons national. C'est ce qu'on nous demande au Cameroun, d'être tous ensemble.
Des Camerounais connus à l'échelle nationale sont présents sur le site de Yaoundé, comme dans le stand dédié aux arts littéraires.
J'ai écrit mon premier livre étant en classe de seconde. Donc ça fait si longtemps que j'écris.
Docteur Pabé Mongo, président de l'Association nationale des poètes et écrivains du Cameroun.
Nous nous rendons compte de l'engouement des lecteurs parce que nous avons beaucoup de visiteurs qui emportent nos ouvrages. Nous avons installé des dédicaces permanentes. C'est-à-dire qu'il y a les auteurs autour et quand vous achetez un ouvrage, on vous le dédicace sur place. Nous pensons d'ailleurs qu'après l'expérience, nous irons nous-mêmes organiser des expositions permanentes.
Maintenant, on fait de grandes choses et on arrête de prendre de grandes pauses.
Le slam a aussi fait sa rentrée culturelle. L'une de ses figures de proue dans le pays est Rodrigue Ndiala.
Respect à tous ceux qui parfois se ratent mais qui reprennent la route. C'est un art qui ne plus
plus en plus pousse le slameur à être respecté. On est parti de zéro, on a mis des structures, on a fait des champions, on a fait des événements.
Au total, 23 pôles d'expression artistique et culturelle ont été regroupés sur un seul site. Une innovation majeure du ministère des Arts et de la Culture, dont Ismaël Bedung Bat est le ministre de tutelle.
Il s'agit en réalité d'une démarche fédérative qui permettra d'accorder les aspirations des différents acteurs en des dynamiques fortes qui peuvent mieux porter la voix des pères.
Les festivités de la 4e rentrée culturelle nationale se déroulent simultanément dans chaque chef-lieu de région jusqu'au 1er octobre. Yaoundé, Emmanuel Jumita, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Élections israéliennes, les citoyens arabes représentent 20% de la population et pourront avoir un rôle à jouer dans la future coalition gouvernementale. Ils n'ont jamais rejoint un gouvernement israélien, mais certains estiment que c'est peut-être le temps du changement. Voici le reportage de Linda Grastein, correspondante de la VOA à Jérusalem. Le récit est de Lionel Gaïma.
Lors des dernières élections israéliennes, il y a à peine 5 mois, près de la moitié des citoyens arabes ont voté. Leur représentation à la Knesset, le Parlement israélien, est passée de 13 membres en 2015 à 9 actuellement. Mais certains partis arabes espèrent remporter plus de sièges avec une liste commune lors des élections de la semaine prochaine. Ahmed Tibi, membre de la Knesset, est numéro 2 sur cette liste commune.
Notre message à notre communauté en tant que liste commune est « Allez voter ». Allez voter pour avoir de l'influence. C'est votre droit, surtout le jour des élections, pour changer notre réalité.
Youssef Yabarin, autre membre de la Knesset, estime que le vote arabe est crucial pour empêcher Benjamin Netanyahou de former un gouvernement d'extrême droite et d'adopter de nouvelles lois qui, à son avis, seront discriminatoires à l'égard des citoyens arabes d'Israël.
Continuer la législation raciste et discriminatoire que ce gouvernement a menée ces dernières années et va continuer de faire s'il en a le pouvoir. Tout siège supplémentaire va affecter la composition de la Knesset et pourrait empêcher Netanyahou de mettre en place un gouvernement d'extrême droite.
Benjamin Netanyahou a nié à plusieurs reprises les accusations de discrimination contre les Arabes. Il cite pour exemple le nombre croissant des citoyens arabes dans les universités israéliennes et leur représentation à la Knesset. Les partis arabes n'ont jamais fait partie d'une coalition gouvernementale en Israël. Mais le responsable de la liste commune, Ayman Odeh, a récemment suscité la controverse en disant que, sous certaines conditions, cela pourrait changer. Le chef de l'opposition Benny Gantz, président du parti de centre-gauche Kahol Lavan, a déclaré qu'il n'était pas intéressé. Mais certains citoyens arabes d'Israël, comme l'analyste Tabet Abouras, co-directeur de l'initiative pour le fonds Abraham, sont d'accord avec cette idée.
Je pense que cette déclaration est importante pour motiver et motive déjà les électeurs arabes. Cela ouvre l'esprit de certains dirigeants juifs qui pourront dire « Nous avons un partenaire dans la communauté arabe et nous verrons de plus en plus de coopération politique entre juifs et arabes dans le futur. »
La plupart des Arabes d'Israël affirment que leurs principaux problèmes sont l'augmentation de la criminalité dans leur lieu de résidence et les politiques qu'ils jugent discriminatoires. La majorité des Arabes d'Israël soutiennent la création d'un État palestinien et craignent qu'une victoire de Netanyahou détruise à jamais la possibilité de créer un tel État. Mais si la liste commune remporte suffisamment de sièges, elle pourra jouer un rôle plus important dans le prochain gouvernement israélien, et ce qui serait une première depuis la création d'Israël.
La Voix d'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
La Grande-Bretagne reste figée sur le Brexit, mais de l'autre côté de la Manche, la France est très attentive. Elle teste de nouvelles mesures douanières ce mois-ci pour éviter d'éventuels obstacles, anticipant un scénario de deal ou de no deal, à savoir une sortie de l'Union européenne avec ou sans accord avec Bruxelles. Lisa Bryan, de la ville portuaire de Calais, parle de l'impact potentiel l'effet du Brexit sur l'économie française locale.
Il est difficile de trouver une localité plus proche de la Grande-Bretagne que Calais. Douvres, de l'autre côté de la Manche, est à seulement 40 km. Cela fait de Calais un pôle majeur du commerce bilatéral, transitant par le rail et le ferry. Le Brexit préoccupe donc les commerces locaux. Arnaud Despit travaille au sein de Carpentier, entreprise des transports et logistique.
Whether it's a hard or soft Brexit,
il s'agisse d'un Brexit dur ou doux, nous allons continuer à transporter des marchandises vers la Grande-Bretagne, car nous sommes au port de Calais et il nous est impossible de vivre sans la Grande-Bretagne. Nous allons donc nous adapter.
Pour anticiper sur le Brexit, le gouvernement français prépare déjà les esprits en embauchant des centaines d'agents supplémentaires des douanes. Paris a introduit des déclarations de douane et d'autres procédures en ligne pour les quelques 100 000 entreprises françaises commerçants avec la Grande-Bretagne. Les autorités affirment que les nouvelles mesures rationaliseront les contrôles des marchandises telles que les aliments et les animaux et faciliteront le bon déroulement des opérations, du moins en ce qui concerne ces contrôles douaniers. Tout cela témoigne de liens de longue date entre la région et la Grande-Bretagne, tant sur le plan économique que sur le plan historique. Calais était autrefois une tour de guet pour surveiller les ennemis, y compris les Anglais. François Lavallie, de la Chambre de commerce de Dunkerque, dans la région de Calais et de Boulogne.
Market for North of France is the third market for North.
Le marché britannique est le troisième marché pour le nord de la France. Si nous avons un problème avec le marché britannique, cela aura peut-être des conséquences néfastes pour la région du nord.
Néanmoins, certains habitants de Calais sont toujours optimistes. Hugues Van Pien, et chauffeur de taxi.
Here in Calais, we don't have many English taking the ferry.
Ici à Calais, la voie ferroviaire n'est plus utilisée par les Anglais. La plupart utilisent l'Eurostar. Et nous pensons qu'un Brexit dur conduira de nouveau à un port franc. Les gens reviendront acheter de l'alcool et des cigarettes en France.
Calais se prépare donc dans l'attente de la prochaine initiative de son voisin d'outre-Manche.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est sur ces notes de Stevie Wonder, Very Suspicious, que s'achève le monde aujourd'hui. VOA Afrique en direct de Washington. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook, Michel Joseph, merci pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci également à toute la rédaction. Irénée Hernan-Ungo à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.